centre Henri Poulaille, qui refonctionne depuis quelques mois. Il y a eu un colloque, dans le numéro 7 d'ailleurs de notre revue, on fait un compte-rendu et un état des lieux du centre Poulaille depuis ses origines. Et en ce moment, on peut s'y rendre. Il y a une activité qui est limitée peut-être dans le temps, mais il y a un fonds Poulaille qui est vraiment impressionnant à consulter, où il y a des tas de documents. C'est fantastique de découvrir ça. Il y a 5 ou 6 pièces avec ces classeurs qui me faisaient avec des coupures de presse, ce qui concerne ces revues, etc. Donc c'est quelque chose aussi. C'est le centre Henri Poulaille à Cachan. Il suffit de s'adresser à la municipalité pour découvrir ce lieu et le faire vivre aussi, parce que là aussi il est important. Je finirai par un dernier livre, c'est Amédée Dunois aux éditions Plein Champ, avec un texte d'Émile Guillaumin suivi. Le premier texte d'Amédée Dunois, c'est sur la lutte des bûcherons avant 1914 dans Nivernais et l'organisation du syndicalisme. Et l'autre, c'est la réédition d'un texte d'Émile Guillaumin, donc, qui a été paysan toute sa vie, et qui s'appelle La peine des chaumières, et qui est disponible, là aussi, aux éditions Plein Champ. Voilà, je crois que nous allons finir là pour aujourd'hui. On va se donner un rendez-vous pour le mois de juin, où là, on devrait, comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, aborder la question de l'ouvrage de René Berthelot, réédition. René Berthelot, rappelons-le, a été mineur, mineur de fond. Donc, rappelons-le, dans les années 50, quand on écrit après avoir bossé au fond de la mine et qu'on trouve le courage de mettre sur le papier le soir, des fois, des petites quantités de petites revues, comme la plume et la bêche, ou non, c'est pas la plume et la bêche, mais on y reviendra, et on reviendra aussi sur les essais de Philippe Bouquet, qui a traduit beaucoup d'auteurs suédois, donc qui est décédé récemment. Nous reviendrons tout ça au cours de la prochaine émission de Et pourtant elle existe, cette littérature, qui aura lieu en juin. Merci aux auditeurs et aux auditrices de Radio Libertaire de nous avoir écoutés. Et nous vous saluons pour aujourd'hui.
À l'abattoir, j'y vais, comme on irait à l'abattoir.
Les poissons et bulots, les plats cuisinés et tout le reste autrefois me semblent aujourd'hui inoffensifs, chantillés, doucereux, même si le boulot était dur.
Tout est rouge de sang et blanc de gras. L'usine est immense, monstrueuse.
Je n'ai jamais tenu un tuyau de nettoyage industriel. Je ne sais même pas faire le ménage chez moi. Ce n'est pas grave, un chef me dit atelier, découpe, port. Je le suis.
La porte s'ouvre et du sang partout. Le premier truc, le sang.
Des lambeaux de cochon partout. Et pas des lambeaux. Des groins, des travers, des pieds et du gras de cochon partout.
Je me dis, mais tu croyais quoi, bonhomme? On t'avait bien dit que tu allais devoir nettoyer un abattoir.
Je bouffe du sang au sens propre et le sang dans ma bouche, ce sang de cochon. Projection et contre-coup du jet oppression.
Des portes s'ouvrent et je vois des centaines et centaines de cochons accrochés, des cochons découpés dans tous les sens et des tas d'autres trucs qui m'achèvent quand je ferme les yeux.
chef, on baisse pas le pantalon devant une bande de cons.
Ils mettent au garde-vous comme des vrais militaires prêts à exécuter les ordres de leur patron. Ils se disent courageux, mais ne sont pas téméraires et retournent leur veste à la première occasion. Quand il est au boulot, il se prend pour un cadre, c'est monsieur je sais tout. Il a peur de personne, le soir à la maison, changement de décor, devient après tout doux et rampe devant pas bonne.
On baissera pas le pantalon devant les petits chefs, on baissera pas le pantalon à sacré nom de nom. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs, on baissera pas le pantalon devant une bande de cons. On baissera pas le pantalon à sacré nom de nom. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon devant une bande de cons.
En vrai, les petits chefs, c'est tous des pétochards qui serrent tellement les fesses devant la direction que tu pourrais même pas mettre un suppositoire. Quand on est trop du tchu, on le reste pour de bon. C'est jamais de leur faute, sont jamais responsables. Eux font que leur travail, c'est la faute au patron. Pour nous, un collabo, c'est jamais fréquentable. Quand on est à côté, ça nous donne des boutons.
On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon à sacré nom de nom. On baissera pas le pantalon devant les petits chefs. On baissera pas le pantalon devant une bande de cons.
Mélanger à mon passé, à mes ennuis de chaque jour. Pour cette fois, vous ne m'aurez pas. Adieu, ma vie, tout en dentelle, à l'ombre de la Eiffel. Adieu ma vie, je me retourne pas, je n'ai pas un seul regret pour toi. Je t'aimais pas, je t'aimais pas. J'ai rencontré le grand amour et... Vie tracée d'avance, ce petit chemin qui va tout droit. À moi les horizons immenses, respirer en ouvrant les bras, pouvoir chanter, aimer sans plus penser à rien, sans lendemain, sans aucun lien. D'un jour à l'autre, tout comme ça vient. Adieu. Tire pour toujours, j'ai rencontré le grand amour et je ne veux pas, et je ne veux pas le mélanger à mon passé, à mes ennuis de chaque jour. Pour cette fois, vous ne m'aurez pas.
Tellement marché, tout seul contre le vent, tellement nagé à contre-courant, tellement jeté de mots en l'air et de bouteilles à la mer. J'ai donné si fort tout l'amour de mon corps, j'ai chanté si fort que ma voix porte encore. J'ai fait tomber tellement de murs et soigné tant de blessures. Aujourd'hui les forces me manquent. Aujourd'hui les forces me manquent. Fatigué. J'ai tellement voulu changer le cours des choses, tellement combattu pour de justes causes, tellement de fois tendu la main quand il y en avait besoin. Souvent, ma parole et mon âme, pour voir mes sentiments s'abîmer dans les flammes. J'ai vu tellement de gens partir et ne jamais revenir.
Un fameux bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons écouter Anne-Cécile Robert. Anne-Cécile Robert est journaliste au Monde Diplomatique, directrice des relations et des éditions internationales, et elle est aussi professeure associée à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8. À la question « Peut-on être à la fois enseignante et journaliste ?», Anne-Cécile Robert répond « Je n'aurais pas pu travailler dans un autre journal que le Monde Diplomatique ». Et Anne-Cécile Robert explique dans un entretien son intérêt pour ce journal avant même d'y entrer. Elle y est entrée en décembre 1997. Elle dit « Ce journal s'attache à critiquer les rapports de domination, quelle que soit leur forme, domination des hommes sur les femmes, domination coloniale, domination du Nord sur le Sud, etc. etc. Et le journal a longtemps été perçu pendant la présidence de Claude Julien, ancien du service étranger du Monde, comme un journal tiers-mondiste. » En effet, lors de son arrivée, Claude Julien a orienté le journal sur le grand mouvement postérieur à la décolonisation et a pris position notamment en faveur des pays africains qui veulent se défaire de l'hégémonie française, ce qu'on appelait à l'époque la France-Afrique. Prenant fait et cause pour les États africains, le journal a été qualifié de tiers-mondiste. Les journalistes critiquent également l'impérialisme américain à partir des années 1970-1980. Et tous les journalistes devraient faire comme cela, c'est se tenir loin du pouvoir, ne pas participer aux dîners mondains, ne pas aller dans les émissions de variété à la télévision au lieu de faire leur métier qui est de faire des enquêtes et d'écrire des articles. Anne-Cécile Robert cite les noms des directeurs du monde diplomatique qui lui ont confié des responsabilités, par exemple l'ancien directeur Ignacio Ramonet et aussi l'actuel directeur Serge Halimi, qui tous deux d'ailleurs étaient aussi des enseignants. Anne-Cécile Robert ajoute « Le monde diplomatique occupe le champ de la contre-information. Je m'attache à faire preuve d'esprit critique dans mon enseignement. » C'est-à-dire que lorsque je fournis aux étudiants le savoir académique sur la construction européenne, par exemple, conformément à mon devoir et au savoir reconnu, j'évoque également des points de vue divergents, exprimés par des chercheurs reconnus, souvent de Paris 8 d'ailleurs. D'autre part, je me plais à Paris 8, université pilote, qui a su garder son esprit engagé et innovant. Paris 8 est rigoureuse du point de vue des valeurs de l'université française et ouverte au savoir nouveau et à l'international. Après avoir lu les derniers articles d'Anne-Cécile Robert dans Le Monde Diplo sur le conflit russo-ukrainien, j'ai pensé qu'il était important de faire entendre aux auditrices et aux auditeurs de Civispacem son analyse de cette guerre. Le 16 janvier 2023, Anne-Cécile Robert déclarait au Forum suisse de politique internationale, elle déclarait ceci « Le travail des journalistes en temps de guerre est extrêmement compliqué et dangereux. La censure, la peur, la propagande, les risques physiques, le danger de mort bornent le quotidien des confrères et consoeurs. L'accès à l'information se révèle particulièrement ardu. » En Ukraine, comme sur d'autres théâtres de guerre, par exemple le Mali ou la guerre du Tigré, les journalistes sont des cibles et certains le paient de leur vie. Et elle ajoute « En temps de crise et de guerre, la mission des journalistes est encore plus cruelle qu'en temps « normal » entre guillemets. Informer relève d'une mission d'intérêt général tant les circonstances et les agissements des partis tendent à obscurcir la réalité et à la déformer à des fins de propagande. En temps de guerre, la première victime est la liberté. A-t-on l'habitude de dire ? C'est aussi vrai aujourd'hui qu'hier. Il est encore impérieux, tout d'abord, que les journalistes aient les moyens de travailler, alors entre parenthèses, financer les déplacements et les longs séjours nécessaires à la réalisation d'enquêtes et de reportages, il est également nécessaire que la profession soit solidaire et attentive. Il s'agit d'attirer l'attention sur les confrères en danger, faire connaître leur travail et les soutenir s'ils sont menacés ou emprisonnés. Enfin, les États doivent assumer leurs responsabilités et leurs obligations envers les journalistes. La signature d'une convention sur la protection des journalistes comme le demande la Fédération internationale des journalistes constitue une étape indispensable. De même que la célébration chaque année, le 2 décembre, de la nécessité de lutter contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes lors de la journée internationale consacrée à ce sujet. Alors voilà, après la défense du travail des journalistes que nous reconnaissons, Anne-Cécile Robert, le 29 mars 2023, a fait une conférence à la Casa Encendida de Madrid sur le thème quel avenir pour la paix en Europe ? Alors bien sûr, cette conférence correspond exactement à l'engagement de l'Union pacifiste, et c'est cette conférence d'ailleurs que nous allons écouter maintenant.
Alors nous avons choisi ce soir un sujet qui est dans l'actualité et qui est un peu inquiétant, puisqu'il s'agit de la guerre et de la paix, donc on ne va pas dire que des choses marrantes, mais l'idée que je me suis forgée en préparant cette conférence, c'était qu'on allait essayer de clarifier les termes du débat et d'essayer de mieux comprendre comment se pose la question pour tracer des perspectives, de manière à ne pas rester sur un constat qui peut être effectivement un peu angoissant, puisqu'il s'agit, de la guerre et de la paix. Alors je suis partie du principe qu'on était tous d'accord, et je pense que c'est le cas, sur la valeur qu'on accorde à la paix. C'est quand même important de rappeler, et je ne le fais pas uniquement par rhétorique, vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus. Nous sommes attachés à la paix, et depuis 1945, nous, quand je dis nous, hein, c'est l'ensemble des États de la planète, avons construit des institutions, imaginé un droit international qui devait nous préserver de la guerre. En 1945, quand on a fait la Charte des Nations Unies, quand on a rédigé la Charte des Nations Unies, on a quasiment interdit la guerre. Si vous n'avez pas relu la Charte des Nations Unies récemment, faites-le. C'est un très beau texte, hein, avec un préambule qui parle du fléau de la guerre et qui dit que les peuples, d'ailleurs ça commence comme ça, nous, peuples des Nations Unies, donnons mandat à nos gouvernements pour créer donc l'ONU et empêcher la guerre de revenir. Et en Europe, nous avons mis en œuvre progressivement une construction européenne avec des institutions qui est aujourd'hui l'Union européenne, qui a entre autres pour fonction d'assurer la paix. Hein, c'est dans la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, l'un des pères fondateurs de la construction européenne, qui dit « L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre ». Donc normalement, là aussi, nous faisons ensemble une organisation européenne, nous construisons ensemble une organisation européenne qui doit nous préserver de la guerre. Alors voilà, le constat c'est un peu est déconcertant, puisque la guerre est de retour. Alors, on avait connu depuis 1945 des guerres en Europe, notamment après la chute de l'Union soviétique en 1991. On avait connu notamment les guerres yougoslaves. Vous vous souvenez, les massacres de Srebrenica, des crimes contre l'humanité commis à 2 heures de Paris. Donc, on avait déjà connu, mais c'était plutôt des guerres civiles. Ce qui se passe de nouveau avec la guerre de la Russie contre l'Ukraine, avec l'agression de l'Ukraine par la Russie, c'est que c'est le retour d'une guerre interétatique. Et ça, c'est pour ça que ça provoque un tel choc, c'est que c'est un type de guerre, la guerre entre États, qui normalement aurait dû être complètement éradiquée, et en particulier en Europe. Donc c'est pour ça qu'on est dans ce moment de stupéfaction et, à mon goût, d'interrogation, enfin pas assez à mon goût d'interrogation, c'est-à-dire qu'on agit plus qu'on ne réfléchit, ça va être un peu le fil conducteur de mon intervention. Les Européens, que ce soit les pays européens ou l'Union européenne, agissent, mais ne réfléchissent pas, selon moi, assez. Et vous allez voir pourquoi je dis ça, et je pense que ça pourra faire l'objet de notre discussion. Nous avons vu, après l'agression de l'Ukraine par la Russie, donc il y a plus d'un an maintenant, des réactions très fortes de la part des États-Unis d'Amérique, bien sûr, mais aussi de la plupart des capitales européennes, et phénomène plus nouveau, de l'Union européenne elle-même. C'est-à-dire que l'Union européenne, qui n'est pas connue, vous le savez, pour être une puissance militaire, c'est plutôt, vous savez, une adepte du pouvoir d'influence, une puissance pacifique, qui fait du développement, qui fait ce qu'on appelle en anglais du soft power, disons du pouvoir d'influence, n'est pas connue pour être une puissance qui assume un pouvoir dur, qui assume des discours guerriers, qui assume de se mêler d'actions militaires. Or, vous l'avez constaté comme moi, c'est ce qu'elle fait depuis un an. On a vu que l'Union européenne avait commencé par adopter des sanctions contre la Russie, des sanctions inédites, inouïes par leur ampleur. Et puis, elle a commencé à envoyer de l'aide financière, de l'aide militaire, des munitions, des armes. On en est à envoyer des chars maintenant. Et on discute d'envoyer des avions. Alors, il n'y a pas consensus là-dessus, hein, mais les Polonais et les Slovaques ont déjà envoyé des avions à l'Ukraine. Les États-Unis et le reste de l'Union européenne ne sont pas pour l'instant décidés à le faire. On va en reparler. Donc, l'Union européenne se met à parler guerre et elle livre des armes à des pays en guerre. On avait depuis quelques années des livraisons d'armes, mais le principe de la part de pays européens, mais le principe, c'était qu'on ne livrait pas d'armes à des pays en guerre. Ce qui parfois donnait beaucoup d'hypocrisie. Hein. Parce qu'on essayait de ne pas voir qu'en fait, au bout du compte, c'était quand même des pays en guerre. Le comble de l'hypocrisie, c'est quand même le gouvernement français qui a essayé d'expliquer il y a 2 ans qu'on livrait des armes à l'Arabie Saoudite, mais que les armes qu'on envoyait à l'Arabie Saoudite ne servaient pas au Yémen. Donc ça, c'est quand même assez... c'est pas très sérieux de dire ça. Mais bon, en tout cas, le principe, c'est qu'on n'a pas le droit de livrer des armes à des pays en guerre. Ben là, tout ça, c'est fini. On livre des armes à un pays en guerre. C'est-à-dire que, quelque part, qu'on soit co-belligérant ou pas, on fait la guerre. Et on assume de faire la guerre. Et ça, c'est nouveau. Et c'est important, je dirais. Et même, c'est grave. Parce que c'est un changement total de discours. On va en reparler. Jusqu'à présent, l'Union européenne disait qu'elle était là pour faire la paix. Donc là, elle assume de faire la guerre avec un discours dont je conteste, et on pourra en discuter aussi, le réalisme. C'est-à-dire que le changement de discours de l'Union européenne, le passage de la paix à la guerre, le bellicisme, je crois que c'est à peu près le même mot en espagnol, d'ailleurs, de l'Union européenne, repose sur l'idée qu'est en train de se dérouler en ce moment en Ukraine une guerre de civilisation, presque. Alors, le mot n'est pas forcément utilisé, mais disons une guerre pour nos valeurs. Vous entendez ça, avec souvent, chez certains, la comparaison avec les années 1930 et ce qui s'est passé, évidemment, face à Hitler.
Je vois leur manigance, leur calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique.
Pourquoi Je respire la fumée. Je suis à bout de souffle. Je vois les fleurs faner. L'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre. Se foutre de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête. C'est leur paradis fiscal.
Après cette chanson de l'ivoirien Tikane Ja Fakoly, nous reprenons le fil de la conférence d'Anne-Cécile Robert à Madrid sur le thème « Quel avenir pour la paix en Europe ?»
Effectivement, si vous voulez faire la guerre dans la tête d'un Européen, il n'y a pas beaucoup de justifications, il faut sortir de bonnes raisons. Et effectivement, dire que ce qui se passe du côté de l'Ukraine, c'est une guerre pour les valeurs, et mobiliser l'image de Munich, la fameuse conférence de Munich, c'est effectivement une bonne justification. Alors je vous le dis tout de suite, je pense que tout ça est complètement irréaliste et que c'est pas du tout une guerre pour les valeurs qui est en train de se passer en Ukraine. Mais je vous donne pas tout de suite hein, pour que vous restiez. On va faire par étapes. Je vous fais des petites du teasing, comme disent nos amis anglais. Donc, l'Union européenne se met à changer de discours. Les pays européens se réarment. Après une période un peu enchanteresse dans les années 1990 où on coupait dans les budgets d'armement, on fermait les casernes, là, tout le monde se réarme. Les Allemands, les Polonais, les Français, des milliards qui sortent de partout, comme ça. Des milliards qu'on trouvait pas il y a quelque temps, d'ailleurs, pour lutter contre la pauvreté, etc. Enfin, c'est quand même un peu... C'est une drôle de période qu'on est en train de vivre, quand même. Et... On a, en gros, on peut dire, une sorte de militarisation de l'Europe, sur laquelle on ne s'interroge pas assez, je trouve. Hein. C'est-à-dire, militariser, ça a un sens. Hein. En particulier, la dernière fois que l'Europe a militarisé, dans les années, justement, 1930, on sait quand même comment ça s'est terminé. Ou si on va un peu plus loin, avant 1914, la militarisation a conduit... à des guerres très meurtrières et très destructrices. Donc on se militarise, et non seulement on se militarise, autre problème pour nous, c'est qu'on le fait sous la bannière de l'Alliance Atlantique. C'est-à-dire que cette militarisation de l'Europe, si vous regardez très concrètement, elle est encadrée par l'OTAN, donc elle est encadrée par les États-Unis. C'est dans le cadre de l'Alliance Atlantique que s'organisent les livraisons d'armes et même de plus en plus les rapports avec la Russie et avec l'Ukraine. Donc ça, pourquoi je le souligne ? Parce que c'est encore un changement de discours. Après le passage du pacifisme au bellicisme, on a une américanisation de l'Europe. Or, il y a toujours eu, hein, depuis l'origine, un rôle important des États-Unis d'Amérique dans la construction européenne, depuis toujours. Les États-Unis ont soutenu la construction européenne dans les années 1950. Ils ont même poussé l'Allemagne, à certains moments, à rejoindre la construction européenne. Mais là, sur une question qui est quand même une question de vie ou de mort, la guerre ou la paix, voilà l'Europe sous bannière américaine. Et ça, c'est, ça remet quand même beaucoup en cause le discours sur l'idée qu'on va faire une souveraineté européenne, qu'on va avoir une identité européenne de défense, parce que peut-il y avoir une identité européenne de défense, une souveraineté européenne, pour reprendre les mots du président Macron, je crois qu'il est à peu près le seul à parler de ça d'ailleurs, si on est sous la bannière de l'Alliance Atlantique. Question, moi je pense que non, peut-être que vous avez une opinion différente, mais il me semble très difficile d'avoir une identité européenne de défense quand on se met sous la bannière d'un État qui a des intérêts autres que les nôtres. C'est-à-dire, nous sommes alliés des États-Unis, ça c'est vrai, mais c'est pas parce qu'on est alliés qu'on a la même vision du monde. Et c'est pas parce qu'on est alliés qu'on a les mêmes intérêts. Donc c'est pour ça que je dis que se mettre sous la bannière des États-Unis remet en cause l'idée de construire une identité européenne de défense. Et ce qui semble préoccupant, c'est que nous sommes collectivement, les États européens et l'Union européenne, embarqués dans une logique d'intervention militaire, dans laquelle on va de plus en plus loin. C'est-à-dire, on a commencé par envoyer de l'argent, on a commencé par envoyer des munitions, maintenant on envoie des chars, il s'agirait d'envoyer bientôt des avions militaires. Ça s'appelle une escalade. Ça s'appelle une escalade, ou ça s'appelle un engrenage. Et bon, alors, on peut décider d'entrer dans une escalade. On peut le décider. On peut considérer que c'est ce qu'il faut faire parce que la situation de l'Ukraine appelle un soutien massif, et donc allons-y dans l'escalade. Mais c'est pas ce qui se passe. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une escalade et dans un engrenage sans avoir réfléchi. C'est pour ça que c'est inquiétant. C'est parce que on ne sait pas, par exemple, pour prendre un cas concret, quels sont nos buts de guerre. Quand vous entrez dans un conflit, et quand vous voulez contrôler l'escalade ou pas l'escalade, eh bien, vous vous fixez un plan. Vous vous dites, notre but, c'est ça, et on va se donner les moyens d'atteindre ce but. Avec des alliés, avec des ennemis, avec un calendrier, des étapes. Là, quels sont nos buts de guerre? On ne sait pas. Les seuls qui ont des buts de guerre clairs sont les Ukrainiens. Ils l'ont dit, alors c'est logique, ce sont les premiers intéressés. Le président Zelensky a dit, nos buts, c'est non seulement de reconquérir les territoires d'avant le 24 février 2022, mais de reconquérir aussi l'Est, le Donbass, etc., et la Crimée. C'est-à-dire la totalité du territoire, avant 2014. Donc ça, c'est clair. Mais est-ce que ce sont nos buts à nous? Honnêtement, j'ai cherché dans les déclarations des dirigeants européens, vous avez des choses très variables. Vous avez des dirigeants européens qui... d'ailleurs, le vocabulaire n'est pas le même. Vous avez des dirigeants européens qui disent « l'Ukraine ne doit pas perdre ». D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire « ne doit pas perdre » ou alors, autre formule, « la Russie ne doit pas gagner ». Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire « la Russie ne doit pas gagner » ? Est-ce que ça veut dire qu'on retourne au 24 février 2022, il y a un an? Ou est-ce que ça veut dire qu'on suit les Ukrainiens et que on libère la Crimée? Et la Crimée retourne à l'Ukraine. Quels sont nos buts de guerre? Quand le président Emmanuel Macron, qui parfois a des éclairs de lucidité, pas beaucoup, ça lui arrive, avait dit « il faut donner à la Russie des garanties de sécurité ». Voilà, tout de suite, certains avaient dit, notamment les Polonais, vous dites n'importe quoi, la Russie ne comprend que la force, il faut repousser la Russie jusque dans ses territoires. Voilà. Bon, alors j'ai ma petite idée, on va en reparler, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas de consensus. On sent bien que pour une partie des Européens, notamment les Polonais, qui ont une histoire particulière avec la Russie, il y a une vision assez claire, il faut repousser la Russie. Mais jusqu'où? Mais même là, jusqu'où? Vous savez que certains disent qu'il faudrait renverser Poutine. Il y a eu certains discours qui disent « tant que le Vladimir Poutine sera là, la peine ne pourra pas revenir ». Ça veut dire quoi? On va aller renverser le gouvernement russe? Voilà encore une question. Mais on ne le sait pas aujourd'hui. On ne sait pas quels sont nos buts de guerre. Et je dois vous dire en passant que je suis un peu inquiète du mandat d'arrêt que vient d'émettre la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Je vous provoque un peu pour vous réveiller. Je suis inquiète de ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Alors, non pas que je conteste les crimes commis, je suis à peu près sûre, comme la plupart d'entre vous, j'imagine que la Russie a commis des crimes de guerre, et peut-être même pire, en Ukraine, donc ça c'est vrai, et que Vladimir Poutine est responsable de ça, oui, puisque c'est le président russe, mais on sait très bien par l'expérience qu'un mandat d'arrêt, c'est-à-dire une procédure judiciaire, contre un dirigeant dans ce type de situation, ça peut être une entrave à la paix. Délivrer un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, c'est bloquer la paix. C'est qui peut parler à quelqu'un qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crime de guerre et peut-être pire. Donc c'est ça qui m'inquiète, moi. Effectivement, il faut que la justice passe, je suis d'accord. Il faut que les crimes soient punis et que les responsables viennent devant la justice. Mais il faut aussi, à un moment donné, que cette guerre s'arrête. C'est ça la question qui nous est posée. Il faut cette guerre s'arrête sans qu'on perde sur nos valeurs, mais qu'on rétablisse la paix. C'est un peu ça l'équation. Hein. Donc, je suis un peu inquiète, moi, de cette immixtion de la justice internationale, d'autant plus que le procureur de la Cour pénale internationale, qui est un Britannique, s'était illustré il y a un an et demi en abandonnant les poursuites contre l'armée américaine en Afghanistan. Donc là, je ne suis pas sûre que ça apaise les tensions qu'on a avec les pays africains, avec les Indiens, sur la question, vous savez, du deux poids, deux mesures.
Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous, venez sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté.
Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits. En revant très vite sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol.
Après les frontières, chante l'ivoirien Tiken Ja Fakoli. Dans notre émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste, nous écoutons aujourd'hui la conférence de la journaliste du Monde Diplomatique Anne-Cécile Robert. Anne-Cécile Robert a prononcé cette conférence le 29 mars 2023 à la Casa Enchidida de Madrid.
Donc, il me semble que on est en train de simplifier à outrance la situation. Et qu'en fait, on brouille les cartes. On brouille les cartes. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, je ne crois pas que nous fassions la guerre en Ukraine pour nos valeurs. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de gens disent, notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle dit l'Ukraine, c'est l'avant-poste de nos valeurs en Europe centrale et orientale. Quand on regarde, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent l'Ukraine ou qui sont ukrainiens, avec qui on peut en parler, mais quand on regarde la situation de l'Ukraine aujourd'hui, le taux de corruption, par exemple, d'après Transparency International, par exemple, ou la suppression des libertés, aujourd'hui en Ukraine, alors ils font la guerre. Hein. Souvent, quand on fait la guerre, hein, on a connu ça, nous, dans le passé aussi, les libertés sont reniées, mais on ne peut pas dire que ce qui se passe, la vie politique en Ukraine... circonstances guerrières mises à part, soient conformes à nos valeurs. En revanche, ce qui se passe en Ukraine met en cause nos principes. Je pense qu'il faut distinguer valeurs et principes. Nous soutenons l'Ukraine pour nos principes. Quels sont-ils ? Eh bien que c'est pas parce que vous êtes le plus fort que vous avez raison. Qu'on n'a pas le droit de faire la guerre pour piquer du territoire à son voisin. Qu'on n'a pas le droit d'agresser son voisin pour conquérir des territoires. Ça, c'est nos principes. Ils sont inscrits dans la Charte des Nations Unies. Il me semblerait beaucoup plus réaliste de la part des Européens de dire que nous faisons la guerre pour nos principes, ceux qui sont dans la Charte des Nations Unies, plutôt que de dire que nous faisons la guerre pour nos valeurs. Parce que c'est assez difficile à expliquer. Et par ailleurs, ça repousse encore la solution vers la paix. Si on est dans une guerre de valeurs, eh bien, peu ou prou, on est dans une guerre à mort. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une guerre de valeurs, eh bien, en général, ça se termine par l'élimination de l'adversaire. Par l'élimination de celui ou de celle, il y a parité dans la monstruosité, qui ne partage pas vos valeurs. Donc, en tenant ce discours, on tient un discours de la guerre à mort. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire? Sachant qu'on n'a toujours pas de but de guerre à l'heure où... Où je vous parle. Et là, on va même... Donc, il me semble que, et par rapport à notre questionnement aujourd'hui, comment on essaie de construire une compréhension de la situation pour essayer d'avancer vers quelque chose de positif, il me semble qu'il faut se remettre à faire de la politique. La politique au sens noble du terme, c'est-à-dire de définir des termes, de prendre du recul historique. Là, on ne fait pas de politique, on a un discours un peu moraliste. On a un discours d'affrontement binaire, manichéen. Il y a les méchants et il y a les gentils. On est dans un discours qui relève plus de la morale que de la politique, qui nous éloigne de la compréhension de ce qui se passe et qui nous éloigne, je le répète, d'une solution. J'ai d'ailleurs parfois des images, le soir, j'imagine la fin de la guerre et la tête de certains de mes confrères journalistes qui sont très va-t-en-guerre, le jour où ils vont voir Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se serrer la main pour faire la paix, car il est possible que ça arrive quand cette guerre se terminera, car cette guerre se terminera comme toutes les guerres. Hein. Donc il faut politiser au sens noble, c'est-à-dire essayer de faire des analyses politiques de ce qui se passe. Et ça, ça implique un travail en étapes. Déjà, ne pas confondre principes et valeurs, comme je viens de le dire. Deuxièmement, mesurer le coût de notre intervention actuelle en Ukraine. C'est-à-dire que cette guerre, on nous dit officiellement que la guerre a uni l'Europe, que l'Union européenne a fait un saut géopolitique, qu'elle s'est affirmée comme un acteur géopolitique sur la scène internationale. Alors, ça me paraît exagéré, d'une part parce qu'on le fait derrière les États-Unis, et que c'est quand même eux qui organisent et qui encadrent, et d'autre part parce que, au contraire, en ce moment, cette guerre est en train de fracturer l'Europe. La guerre est en train de fracturer l'Europe. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, la Pologne prendre la tête du groupe de pays qui veulent aller à l'affrontement vers la Russie, qui est en train de livrer des avions en ce moment, et qui est en dialogue direct avec les États-Unis d'Amérique. Vous avez vu la visite du président Joe Biden à Varsovie il y a quelques semaines maintenant. On a même, bizarrement, un axe Varsovie-Londres. Le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, mais le Royaume-Uni joue un rôle très important dans l'Alliance Atlantique et dans cette guerre vers la Russie, contre la Russie. Washington, Varsovie, Londres, Washington. Le couple franco-allemand complètement marginalisé dans cette affaire. Les Français et les Allemands sont d'accord sur pas grand-chose. Et en premier lieu sur l'interprétation des accords de Minsk. On peut en reparler si vous voulez. Les Européens sont unis pour adopter les sanctions, mais vous avez des pays qui n'appliquent pas les sanctions, comme la Hongrie. Vous avez des pays qui ont fait leur marché dans les sanctions. Les champions, c'est quand même nos amis belges, qui ont réussi à exclure les diamants du registre des sanctions pour faire plaisir aux diamantaires de Bruges. Bon, donc l'Europe est beaucoup plus fracturée que ne le dit le discours aujourd'hui. Par ailleurs, on est entré en crise économique. C'est une des conséquences de la guerre. Avec l'inflation, et les États-Unis tirent leur épingle du jeu. L'Europe est en train de mettre un terme à sa dépendance économique vis-à-vis de la Russie, mais elle est de plus en plus dépendante des États-Unis, notamment pour le gaz. Donc on est dans une logique de quitter une dépendance vers une autre. Alors, cette partie-là n'est peut-être pas complètement jouée, puisque vous avez vu qu'il y a deux jours, la Commission européenne a annoncé un plan industriel, justement pour essayer de retrouver de l'autonomie. Mais on n'y est pas pour l'instant. Si vous regardez les chiffres, notre dépendance énergétique vis-à-vis des États-Unis a considérablement augmenté. Par ailleurs, les États-Unis sont ultra-protectionnistes et les Européens ne le sont pas. Nous n'arrivons pas à riposter à, vous savez, la réglementation IRA, la loi de lutte contre l'inflation, qui permet aux États-Unis de subventionner et de soutenir par des mesures protectionnistes leur économie nationale. Les Européens qui sont hostiles aux protectionnistes, là je dis l'Union européenne, n'ont pas pour l'instant adopté de mesures capables de riposter. Et du coup on a des entreprises qui vont aux États-Unis pour bénéficier des aides américaines. Donc on a du mal à concevoir une riposte, quand je dis nous c'est l'Union européenne, commune face au protectionnisme américain. Donc, fracturation de l'Europe, dont on ne sait pas très bien vers quoi ça va mener, d'autant plus que vous l'avez remarqué, cette fracturation de l'Europe s'accompagne de la montée de mouvements démagogiques et d'extrême droite, qui tirent les sociétés aussi dans des tensions politiques. Là, on ne sait pas très bien ce que ça va donner. En France, on a un grand parti d'extrême droite, mais dans beaucoup de pays européens, on a des partis d'extrême droite qui sont de toutes sortes de couleurs. Il y a même des partis néo-nazis, hein, vous le savez, en Europe centrale et orientale, et qui profitent de manière opportuniste des événements. Donc on paye cher notre engagement un peu à l'aveugle dans cette guerre de soutien à l'Ukraine, dont je le répète, hein, l'Ukraine est la partie qu'il faut soutenir dans cette guerre. Hein. Je conteste la manière dont on le fait, vous l'avez compris. Deuxième question à poser, c'est, et ça c'est le prolongement de la question de quels sont nos buts de guerre, c'est quelle est notre vision de la sécurité du continent ? Puisque là, on a une guerre Russie-Ukraine, mais il y a d'autres foyers de tension. Il y a la Géorgie, il y a la Moldavie, il y a d'autres foyers de tension. On sait que dans les Balkans, certains mouvements pro-russes s'organisent. J'ai appris la création, il y a quelques jours, du mouvement international russophile à Moscou, avec des gens notamment de Bulgarie, de pays d'Europe centrale et orientale. Donc on est dans des tensions sécuritaires et on n'a pas de vision. Quelle est notre vision ? Très concrètement, parce qu'on pourrait en discuter pendant des heures et il faut qu'on arrive à avoir un échange après. Par exemple, quelle est notre vision à long terme des rapports avec la Russie ? Pendant très longtemps, les Européens, les Allemands en tête, disait il faut qu'on trouve un accord parce que la Russie avec la Russie parce que c'est notre voisin et même on a des intérêts avec eux parce que on leur achète du gaz ou du pétrole. Donc on avait l'idée qu'il fallait trouver une sorte de modus vivendi. Vous vous souvenez que les Allemands étaient les porte-parole de ça avec Nord Stream. Les Américains étaient contre. Les Américains ont toujours été, les États-Unis d'Amérique, hostiles à Nord Stream. Et donc là on est avec la guerre arrivé dans une logique qui est plutôt dans une logique d'endiguement de la Russie, de containment, comme on disait pendant la guerre froide, d'endiguement de la Russie, c'est-à-dire on n'est peut-être pas en train de recréer un rideau de fer, mais on repousse la Russie. Mais vers quoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que dans le même temps, on ne veut pas que la Russie s'allie avec la Chine. Vous avez entendu ça ? On a dit il faut surtout pas qu'il y ait un duopole Chine-Russie, mais c'est ce qu'on est en train de faire. En repoussant la Russie, là, en ce moment, avec cette politique de containment, d'endiguement, on est en train de pousser la Russie vers la Chine. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire ? Et c'est pour ça que, ce que je vous disais tout à l'heure, il est problématique qu'on soit derrière le parapluie américain. Parce que ça a toujours été le projet américain de repousser la Russie vers l'Asie et d'unir les Européens derrière le parapluie américain comme un bloc. Donc on est en train de faire ce que souhaitaient les États-Unis et qui correspond à leurs intérêts et leurs problèmes. Voilà. Hein. Mais nous, quel est notre intérêt en tant que continent européen ? Et est-ce que notre intérêt, c'est d'avoir une Russie qui nous tourne le dos et à qui on tourne le dos ? Et est-ce que c'est viable ? Est-ce qu'on peut avoir un voisin aussi puissant avec qui on n'a pas de relation construite et organisée ? Et là, on n'a pas non plus, c'est pour ça que je vous disais, il faut politiser, au sens noble du terme, on n'a pas de pensée politique de la sécurité européenne. À part cet endiguement, quelle vision on a des rapports avec la Russie ? Et je vous disais tout à l'heure, le président Macron a évoqué l'idée de donner à la Russie des garanties de sécurité. Certains pays, comme la Pologne notamment, mais pas seulement, le Royaume-Uni, une ministre allemande, ont dit non, non, non. Les Russes ont déjà eu tout ce qu'ils voulaient, c'est fini. En fait, il n'y a rien à leur donner. C'est eux qui sont dans une logique agressive. Est-ce qu'on pense que c'est vrai ? Vous savez qu'il y a des chercheurs qui ont analysé cette période des 30 dernières années et qui contestent cette idée qu'on a fait tous les efforts qu'il fallait vis-à-vis de la Russie. Hein, et dans les colonnes du Monde diplomatique, nous avons donné la parole à certains de ces chercheurs.
Nous vend les armes pendant que nous nous battons. Et puis Et si vous êtes surpris de voir la pub toujours en guerre. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais ouais c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais ouais c'est du blague et tu es. Ils cautionnent la dictature, tout ça pour nous affamer. Ils pillent nos richesses pour nous enterrer vivants. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola. Ils ont brûlé Kinshasa, ils ont brûlé Rwanda. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais ouais c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, ouais ouais c'est du blague et tu es. Flagué tu es, la la la, la vigilance et résistance. Au Cassera, Léon de Numboro, Tere, Calibéria de Numitile. Au Cangola de Numboro, Tere, au Cassera, Léon de Numboro, Tere. Why, why? Why, why, why? La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, why, why, c'est du blague et tu es. La politique France-Africa, c'est du blague et tu es. La politique America-Africa, why, why, c'est du blague et tu es. Blague et tu es. Ils vont nous blague et tu es. Blague et tu es, la 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 la. Ils veulent nous blague et tu es. Tout va bon, non, non, bah non, blague, tu es. Blague, tu es, la 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 la.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre un autre morceau de musique de l'artiste ivoirien Tiken Ja Fakoli. Et je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui en compagnie de la journaliste Anne-Cécile Robert. Anne-Cécile Robert traite le sujet de la guerre en Ukraine. La qualité des informations délivrées par le monde diplomatique dépend bien sûr, et vous le savez, du travail d'enquête de ces journalistes. Alors Anne-Cécile Robert s'intéresse donc aussi aux causes du conflit russo-ukrainien.
On est allé puiser aussi dans les archives du département d'État qui sont en libre accès. Vous pouvez y aller, département d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Ça s'appelle Archives, National Security Archives, les archives de la sécurité nationale américaine, libre accès. Vous pouvez trouver les rencontres entre Mikhail Gorbatchev et James Baker, par exemple, dans les années 90. Et vous voyez les quiproquos. Vous les voyez, là, on peut aller dans les archives. Et on a trouvé, nous d'ailleurs, la trace de la promesse des Américains que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est. Elle est dans les archives, on a publié le document. James Baker, le secrétaire d'État américain, a dit à Gorbatchev que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est. Aujourd'hui, l'OTAN rase les moustaches de l'ours russe, comme on dit dans les mauvais journaux. L'OTAN s'est étendue jusqu'aux frontières de la Russie. Donc cette promesse n'a pas été tenue. Et jamais les Américains n'ont voulu dire aux Russes l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Jamais. Donc, alors, on est dans une situation, je partage les interrogations avec vous, est-ce qu'on a tout fait pour empêcher cette guerre ? L'interprétation dominante, c'est pas celle que je suis en train de vous dire. Hein. C'est pour ça qu'on fait ces conférences, c'est pour dire des choses qu'on n'entend pas ailleurs, sinon on les ferait pas. Le discours dominant, c'est de dire « Poutine a eu tout ce qu'il voulait, de toute façon c'est un impérialiste, c'est une espèce de tsar, c'est l'héritier de Nicolas II, certains le comparent à Hitler. » Bon, voilà. Moi, je crois pas du tout à ça. Je pense qu'effectivement, c'est un type brutal, cynique, qui en a rien à faire des droits de l'homme, qui ne voit que ses intérêts, ça c'est vrai. C'est un assassin, là Biden avait raison, mais je ne suis pas certaine que sa vision soit celle de l'impérialisme. Je pense que plutôt à l'origine, il était sur l'idée du glacis, ce qui n'est pas la même chose. Alors maintenant, la guerre est déclenchée, l'appétit venant en mangeant, il a envie de manger un peu tout, hein, puisqu'il a annexé l'Ukraine, l'Est de l'Ukraine. Il a probablement des vues sur d'autres morceaux d'Europe. Là, c'est vrai que maintenant, on est dans une situation où on est face à l'impérialisme russe. Là, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais je refais l'histoire parce que il va bien falloir, à un moment donné, qu'on s'entende sur un récit et qu'on s'entende sur des équilibres européens. Vous voyez ? Et là, on n'y est pas du tout. Est-ce que on peut vivre avec des pays qui ne sont pas tranquilles ? Il faut tranquilliser l'Ukraine, il faut tranquilliser la Pologne, il faut tranquilliser tous les pays qui sont en première ligne, mais il faut aussi peut-être donner, comme disait le président Macron, qui n'est pas mon auteur préféré, sauf dans ce cas précis, des garanties de sécurité à la Russie. Et si oui, lesquelles ? Alors, dans le cas présent, effectivement, il faut arrêter cette guerre et que les principes soient rétablis. Ça, on sera probablement d'accord là-dessus. C'est-à-dire, l'agression de la Russie contre l'Ukraine est illégale. C'est une violation gravissime de la charte de l'ONU. Et ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Mais à partir de ce constat, il faut qu'on se projette vers la vision qu'on a du continent européen. Et malheureusement, l'Union européenne, en tant que collectivité, est une boîte vide. C'est une coquille vide. Elle n'a pas de pensée stratégique. Si vous avez lu la boussole stratégique européenne qui a été publiée en avril, c'est un catalogue de plusieurs dizaines de pages, bien c'est un catalogue. C'est-à-dire on parle de tout, mais il n'y a pas de vision. Et quand on parle de vision, c'est comme par hasard celle des États-Unis. On reprend le vocabulaire américain, on reprend la vision américaine, mais quels sont les intérêts européens ? C'est ça qu'il faudrait définir. Quels sont nos intérêts d'Européens ? Et là, si ça vous intéresse, je vous renvoie à la tribune publiée par le philosophe Jürgen Habermas, le philosophe allemand, dans le Süddeutsche Zeitung d'il y a une huitaine de jours. Jürgen Habermas, un social-démocrate, c'est vraiment pas un foudre de guerre, il est hostile à la Russie, donc il ne faut pas lui faire de faux procès. Et il pose cette question, quelle est notre vision de l'autonomie européenne et de nos intérêts géostratégiques ? Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, je vous ai parlé de la Russie, mais on est aussi sec vis-à-vis de la Turquie, qu'on fait mariner depuis presque 40 ans dans l'antichambre de l'adhésion. On ne sait toujours pas ce qu'on veut faire de la Turquie, qui est candidate à l'adhésion à l'Union européenne, mais qu'on ne fait pas adhérer, parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a plein de trucs qui ne vont pas, c'est vrai. Mais... À un moment donné, c'est pareil, il va bien falloir dire quelque chose à la Turquie. Il y a un morceau de la Turquie qui est en Europe. Et puis la Turquie joue un rôle géopolitique fondamental. C'est elle qui a négocié l'accord, vous savez, sur le grain, les céréales. Et donc c'est elle qui dialogue avec Moscou, c'est pas nous. Honnêtement, moi je suis pas particulièrement européiste, mais je me suis sentie un peu humiliée quand même. Hein. C'est-à-dire, ça fait des décennies, moi je fais partie des générations qui ont été élevées dans l'idée que l'Europe allait être notre avenir, avec son identité, qu'on allait construire la paix. Et aujourd'hui, il y a un conflit sur notre territoire et on n'est même pas des interlocuteurs. On n'est même pas dans le dialogue. C'est les autres qui parlent à la Russie. C'est les autres qui parlent aux Chinois, c'est pas nous. J'ai entendu que le président du Brésil voulait se poser en médiateur. Tout le monde y va sauf nous. L'Union africaine aussi maintenant. Mais quelle humiliation ! Ça veut dire qu'après toutes ces décennies, on est encore des jouets de l'histoire. Alors qu'on avait dit, qu'on faisait l'Europe et on a sacrifié sur cette Europe. Hein. Nous, les Français, d'ailleurs, on commence à en avoir un peu assez, parce qu'on estime qu'on n'est pas payé de retour. Mais, et pour, c'est pour ce résultat, pour revivre des guerres du Moyen-Âge, sans avoir jamais un coup d'avance. C'est ça qui m'inquiète. C'est qu'on n'a jamais un coup d'avance. On est dans l'engrenage de la guerre, mais on n'a jamais un coup d'avance. Donc, quelle est notre vision de nos rapports avec nos voisins, en termes économiques, en termes sécuritaires, en termes culturels? Et là, on continue de bricoler. Il y a une note très intéressante de la Fondation Robert Schuman, que je vous invite à lire, qui est parue la semaine dernière. La Fondation Robert Schuman, hein, c'est un organe, alors là, très européiste. Hein. Donc c'est intéressant qu'eux le disent. Ils disent que l'Europe doit arrêter de bricoler des accords techniques pour faire de la géopolitique. Et ils disent que pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, si eux le disent, c'est quand même important. Et donc, la situation, et je vais m'acheminer vers ma conclusion, la situation, elle est inquiétante, mais en même temps, elle n'est pas désespérée. Elle est inquiétante parce que la guerre est là. Elle est inquiétante parce qu'il y a un manque de pensée. Mais elle n'est pas désespérée parce que il ne tient qu'à nous de nous mettre à penser. Il ne tient qu'à nous de nous asseoir, de réfléchir, d'ouvrir des livres d'histoire et d'essayer de partager des réflexions pour construire. C'est vrai qu'à court terme, la situation est compliquée. On parlait du pacifisme tout à l'heure avec Ferran Montessa. Le pacifisme, il est un peu inopérant en ce moment parce que la guerre est déclenchée et on voit pas arriver avec des drapeaux blancs devant les chars russes. Enfin bon, je... Voilà. Mais à un moment donné, au-delà de ce côté inopérant à court terme du pacifisme, on peut peut-être réactiver l'idée du pacifisme au sens de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire le pacifisme de la Charte des Nations Unies, signée en 1945, c'est de dire quels sont les grands principes sur lesquels on peut s'accorder pour désamorcer les guerres quand elles arrivent, règlement pacifique des différends, chapitre 6 de la Charte, et les arrêter quand elles commencent, chapitre 7 de la Charte. La difficulté qu'on voyait monter depuis quelques années, j'ai écrit un livre en 2018 qui s'appelle « Qui veut tuer l'ONU ?», dans lequel je raconte ça, c'est que les grandes puissances, notamment les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, Russie, Chine, Royaume-Uni, France et États-Unis, ne dialoguent plus depuis plusieurs années déjà. Mais ils ne dialoguent plus sur aucun sujet important. Et c'est même tragique, moi qui suis les assemblées générales de l'ONU depuis des années, il y a eu de très beaux discours des uns et des autres, mais qui ne se sont jamais rencontrés. Il y a eu un discours magnifique de Joe Biden juste après son élection à la présidence des États-Unis, où il rappelait les valeurs de l'ONU. Aucune réponse de Moscou. Aucune. 2 ans juste avant la pandémie, c'était un très beau discours de Vladimir Poutine qui disait « Il faut que les Occidentaux et les Russes s'allient contre un ennemi commun qui est le terrorisme. » On était encore dans les attentats de 2015, les attentats qui avaient lieu aussi en Espagne, on était encore dans toute ce moment-là. Et donc Poutine disait « On a un ennemi commun, le terrorisme. » Alors lui, il mettait les Tchétchènes, bien sûr, hein. Poutine n'est pas quelqu'un de très subtil, mais il disait qu'il faut faire une alliance comme on a fait Staline et Roosevelt. Pour dire, on se déteste peut-être, mais il faut qu'on sache si on a des ennemis communs. Et il proposait une discussion aux 5 permanents. Il disait, mettons-nous autour d'une table et discutons. Cette discussion n'a jamais eu lieu. Et ça fait un moment qu'on voyait, moi je l'ai écrit à plusieurs reprises, quand on est à ce niveau de non-dialogue et d'incompréhension, immanquablement, ça se termine par une guerre. Je pensais qu'elle aurait lieu loin, dans le Pacifique. Je disais même à mes étudiants, pour une fois, ce ne sera pas en Europe. Bon, je sais, c'est moyen comme blague. Mais malheureusement, c'est en Europe que ça se passe. Et y a un enjeu, c'est pour ça que je suis inquiète, mais pas désespérée, à reconstruire des espaces de dialogue. Et c'est intéressant ce qu'on fait ce soir là, c'est parce que quand les politiques sont bloquées, c'est souvent de la part des citoyens, des associations, de ce qu'on appelle la société civile, que vient la solution. En proposant des espaces de discussion, de réflexion, et je trouve que c'est très important de prendre ces initiatives. Parce qu'en plus, je pense qu'il y en a un peu partout. Si on en croit Jürgen Habermas, en Allemagne aussi, il y a des gens qui se réunissent dans les mairies pour dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on se projette pour avoir un coup d'avance par rapport à cette guerre ? Donc, refaire de la politique, rediscuter, essayer d'être clair sur nos principes, revenir sur nos principes, et nous projeter vers l'avenir en essayant de voir ce qu'on peut discuter, et c'est là toute l'équation, sans se renier. Parce que ça va être ça la difficulté. Hein, les crimes qui sont commis actuellement en Ukraine devront être punis. Sinon, on ne pourra pas se rétablir. Mais comment retrouver un espace de discussion avec une discussion politique sur la sécurité en Europe, en définissant nos intérêts et en rétablissant, comme on l'a fait en 1945, l'ordre international sur des valeurs claires, partagées, qui nous permettent de stabiliser sans préparer la prochaine guerre. Parce qu'il ne faut pas qu'on commette l'erreur qu'on a commise en 1919 avec le traité de Versailles qui avait mis fin à la guerre, la première guerre, mais qui avait créé les conditions de la seconde. Mais je crois qu'on peut, si on se met à penser, c'est-à-dire sortir de cette espèce de logique de l'escalade.
Vous venez d'entendre la conférence d'Anne-Cécile Robert, conférence qui s'est tenue sur le thème « Quel avenir pour la paix en Europe ?» à Madrid, à la Casa Encendida. Son analyse du conflit russo-ukrainien et ses propositions pour retrouver un climat de paix en Europe correspondent au point de vue de l'Union pacifiste. Nous remercions donc les animateurs de la Casa Encendida de Madrid d'avoir mis en ligne la conférence d'Anne-Cécile Robert. Dans un article du Monde diplomatique qui avait pour titre « La guerre en Ukraine vue d'Afrique », Anne-Cécile Robert a aussi expliqué pourquoi les pays africains qu'elle connaît bien n'ont pas voulu prendre parti dans le conflit européen de la guerre en Ukraine. Stupéfaction et incompréhension traversent les chancelleries occidentales ce 2 mars 2022 à l'annonce des résultats du vote d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de l'ONU déplorant l'agression perpétrée par la Russie et exigeant le retrait immédiat de ses troupes d'Ukraine. Si le texte est adopté à une large majorité, la moitié des pays qui ne l'ont pas soutenu est africaine. Et elle ajoute dans cet article, le chef d'État sénégalais Macky Sall a interpellé le Conseil de sécurité, entre guillemets, afin qu'il traite de la même manière toutes les menaces à la paix et à la sécurité internationale, y compris en Afrique. Et l'ancienne première ministre sénégalaise Aminata Touré a ajouté « Si aujourd'hui le reste du monde, l'Europe notamment, souhaite développer des relations équitables avec l'Afrique, c'est le moment. Il y a un aréopage de partenaires potentiels, ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans. Le monde a changé, mais j'ai le sentiment que les puissances traditionnelles ne s'en rendent pas compte, ou du moins très très lentement. » Il faut un changement de paradigme. Effectivement, Anne-Cécile Robert, dans son livre intitulé « L'Afrique au secours de l'Occident », essaie d'expliquer ce qui a changé en Afrique. Alors, ce livre a été republié en 2021 aux éditions de l'Atelier. Il est essentiel pour lutter contre les idées reçues sur l'Afrique ou les Afriques d'aujourd'hui. En présentant son livre aux Amis du Monde Diplomatique, voici d'ailleurs ce que disait Anne-Cécile Robert.
Donc, je vais surtout vous parler de l'Afrique subsaharienne. Et en préparant cette conférence, je mesurais, puisque ça fait presque 20 ans que je suis le continent africain pour le monde diplomatique, je mesurais l'évolution du discours médiatique sur l'Afrique. Aujourd'hui, une espèce de mode, hein, tout le monde, en tout cas les grands médias, s'intéressent à l'Afrique. Il y a des grands journaux qui créent même des sites spécialisés sur l'Afrique. Il y a des personnalités, vous avez parlé de Jacques Attali, qui créent des fondations pour l'Afrique. Donc cette passion est tout à fait sympathique, sans doute. Mais bon, on peut quand même noter déjà qu'elle est assez orientée, hein, puisque toutes ces personnes cherchent, et ils ne s'en cachent pas, hein, à faire des affaires en Afrique. Hein. On veut mettre la main sur des marchés. Et Jacques Attali évoque l'intérêt économique pour l'Europe de s'intéresser à l'Afrique. Alors nous, au Monde Diplo, ça fait longtemps qu'on s'intéresse à l'Afrique avec d'autres visions, vous l'imaginez bien. Puisque nous suivons le continent africain dans l'idée d'essayer de rendre compte de ce qui s'y passe vraiment, au-delà des caricatures, hein, autant que nous pouvons le faire, et aussi dans l'idée de soutenir d'éventuels mouvements d'émancipation, parce que nous continuons de penser que si le continent africain se développe, ce qu'on va voir, ce que vous savez aussi sans doute, il reste quand même inséré dans des rapports de domination que certains observateurs, Jacques Attali compris, ont tendance à oublier. Hein, c'est-à-dire qu'on parle de l'Afrique comme d'un marché porteur, on a des reportages émouvants sur les guerriers Maasai qui suivent la météo avec leur téléphone portable habillé de couleurs chatoyantes. Bon, tout ça est vrai, certes. Il y a ce renouveau, ce dynamisme des sociétés africaines, mais n'oublions pas que cette évolution, ce dynamisme du continent africain s'inscrit toujours dans des rapports de domination qui restent extrêmement importants. Domination évidemment du nord sur le sud, mais pas seulement, puisque maintenant, je ne vous l'apprends pas naturellement, on est dans une logique sud-sud, et on voit se dessiner d'autres types de rapports à l'intérieur des pays, entre les pays du sud eux-mêmes, que ce soit de la part de la Chine, ou d'autres puissances asiatiques. C'est moins net pour les pays d'Amérique latine, mais tout de même. Donc, voilà notre angle d'attaque, essayer de parler de l'Afrique de l'intérieur, donner à voir ce qui s'y passe, et décrypter en tenant compte des logiques géopolitiques mondiales. Alors, depuis que je suis au Monde Diplo, depuis presque 20 ans, c'est le quatrième manière de voir que nous consacrons à l'Afrique. Et les titres ont évolué, puisque le premier que j'avais marrainé, parce que je suis une fille, donc je marraine, s'appelait « Afrique au pluriel en renaissance ». Après, le deuxième, c'était « Résistance au pluriel africaine ». Le troisième, c'était « Indispensable Afrique ». Vous voyez, hein, le ton d'ailleurs cohérent avec mon livre. Et là, le quatrième, celui qui est sorti cet automne, s'appelle « Enfer et Eldorado ». Donc on sent qu'il y a une évolution de l'angle d'attaque. Ce n'est pas une évolution de la ligne éditoriale. Hein. Nous sommes toujours dans l'idée que l'Afrique est en renaissance, que les peuples y résistent à des dominations et que l'Afrique est un continent indispensable. Mais on a voulu, dans ce manière de voir, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, souligner que l'Afrique est entrée dans une phase nouvelle de son histoire qui se caractérise par des mouvements contradictoires, qu'elle est dans une sorte de grande transition qui peut donner des choses très positives, mais aussi des choses qui le sont moins. Et de cette période de transition, pour l'instant, il est difficile de savoir ce qui va sortir. C'est ça qui est intéressant à observer. En tout cas, il nous semble difficilement niable que l'Afrique est entrée dans cette période de transition et qu'il s'y passe des choses, c'est-à-dire, hein, sans remonter trop loin dans le temps, que l'Afrique que nous voyons n'est plus celle qui subissait, il y a encore quelques années, la domination Est-Ouest, par exemple. Hein, vous vous souvenez des conséquences particulières de la guerre froide sur le continent africain, où vous aviez les États-Unis et l'Union soviétique qui se livraient des guerres par pays interposés. Par exemple, l'Angola a subi ça, mais aussi l'Afrique du Sud, hein, puisque les Occidentaux ont, au nom de la lutte contre le communisme, soutenu le régime d'apartheid pendant très longtemps. À tel point que Margaret Thatcher, qui était dans cette logique, avait même réussi à fâcher la reine Elisabeth II, qui n'est pas connue pour se fâcher, parce qu'elle était choquée que Madame Thatcher, qui nous manque bien pour sa subtilité et son humour, vous vous souvenez, avait brisé la grève des mineurs anglais en achetant du charbon sud-africain. Donc elle avait brisé cette grève en achetant du charbon sud-africain, et cela avait provoqué la colère de la reine Elisabeth. Donc voilà, tout ça, sans remonter donc à tous ces événements, cette période-là est terminée, la guerre froide est terminée, les puissances coloniales, aujourd'hui, font face à une certaine concurrence, c'est-à-dire les pays, par exemple, d'Afrique francophone, ne sont plus dans un rapport unique avec Paris. Maintenant, les pays africains francophones peuvent faire appel à d'autres puissances pour obtenir, je sais pas, des accords avec des entreprises. Donc le jeu géopolitique s'ouvre pour le continent africain, qui n'est plus coincé dans un rapport vertical avec les plus anciennes puissances coloniales, ce qui suscite, et ça explique peut-être aussi les discours de Jacques Attali ou de Jean-Louis Borloo, un certain émoi à Paris, où les entreprises françaises ne sont plus en terrain conquis en Afrique francophone, ce qui les embête bien, puisque jusqu'à une période très récente, il y avait une espèce de droit de préemption, si vous voulez, des entreprises françaises en Afrique francophone. Alors il y a de beaux restes de ce système, on en parlera si ça vous intéresse, hein, ce système que François-Xavier Verchat avait surnommé la France-Afrique, perdure hein, quand même, puisque on voit très bien, pour ceux d'entre vous qui connaissent le continent africain et qui s'y rendent, que les entreprises françaises en Afrique francophone sont quand même encore bien placées. Même si je le vois par exemple dans un pays très populaire pour les Français qui est le Sénégal, on voit l'évolution à l'œil nu, hein, jusqu'à une période récente, par exemple les bus à Dakar étaient des bus français qui avaient encore leur plaque d'immatriculation, souvent des Bouches-du-Rhône. Je n'ai pas enquêté pour savoir pourquoi, mais bon, voilà. Maintenant, c'est des bus indiens. Voilà, donc le port de Dakar a échappé de justesse à Bolloré, malgré le soutien amical du président Nicolas Sarkozy. François Hollande fait pareil, hein, restons calmes sur ce sujet. Il n'y a pas malheureusement hein, de différence droite-gauche en termes France-Africains, malheureusement. Mais Bolloré n'a pas réussi à mettre totalement la main sur la Côte d'Ivoire. Même s'il a eu, je crois, il a obtenu le marché du port à conteneurs, en tout cas, il n'a pas eu le port de Dakar. Donc les choses, la France-Afrique perdure, mais les choses sont plus compliquées. Et ce que j'étais en train de vous dire, malgré ces digressions, c'est que le jeu politique, géopolitique s'ouvre pour le continent africain, ce qui est intéressant, puisque ça leur offre donc une marge de manœuvre. L'autre chose qui illustre cette nouvelle période pour le continent africain, c'est bien sûr que beaucoup de pays africains profitent du cours élevé des matières premières. Vous le savez, pour que ce soit le pétrole, l'or. Dans la période récente, hein, les cours des matières premières ont beaucoup augmenté, ce qui a permis à certains pays africains, par exemple, très concrètement, de se désendetter et donc de retrouver là aussi un peu d'air en remboursant certains de leurs créanciers. Et on est à Sciences Po, donc ces problématiques vous sont connues. Les cours des matières premières varient grandement. Et aujourd'hui, on voit un petit peu la situation se retourner pour certains pays comme l'Angola, qui avait jusqu'à il y a quelques années, il y a 4-5 ans, 10% de croissance, et qui maintenant sont un petit peu au-dessus de 5. Hein, ce qui est quand même beaucoup encore pour nous. Hein. Donc, voilà, une période de transition qui ouvre le jeu pour le continent africain, en lui offrant des possibilités d'agir pour lui-même.
En lisant le livre d'Anne-Cécile Robert, L'Afrique au secours de l'Occident, en lisant aussi ses nombreux articles publiés dans le Monde Diplo, et dans le numéro d'avril-mai 2023 de Manière de voir, ce numéro étant intitulé « Ukraine, jusqu'où l'escalade », on comprend mieux l'évolution politique des Afriques et leur position par rapport au conflit russo-ukrainien. Au terme de cette émission, il me reste donc à remercier Anne-Cécile Robert pour ses écrits et aussi pour les conférences que vous pouvez d'ailleurs écouter dans leur intégralité sur YouTube. Et pour finir, nous allons encore écouter un nouveau morceau de l'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly qui nous a accompagnés pendant toute cette émission. À la semaine prochaine, ciao ciao.
40 ans. Tu refuses de foutre ton camp. Tu pourrais avoir des amis si tu nous laisses dans la merde. Oh là là, oh là là.
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir,
quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir.
Que tu as été malvenu, mais tu t'es accroché. Aujourd'hui tout est gâché. Tu pourrais avoir des ennuis si les choses restent ainsi. Oh là là, oh là là.
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir.
Monsieur le Président,
quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir.
Aucun changement dans vos comportements, malgré différents gouvernements depuis 40 ans. Tu pourrais avoir des emmerdes si tu nous laisses dans la merde. Oh là là, oh là là.
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir.
Laisse tomber l'histoire, tu sais bien pourquoi. Monsieur le Président, sans incident, quitte le pouvoir. Laisse tomber l'histoire, vous savez pourquoi. Monsieur le Président, quitte le pouvoir. Monsieur le Président, si vous aimez notre peuple, quitte le pouvoir. Paris est fatigué.
Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai. Chante, Rossignol, chante, toi qui...
Bonsoir, c'est Jazz Libre, Radio Libertaire. Alors, ce soir, une émission en direct des studios. Et oui, ça fait relativement longtemps que nous ne sommes pas parlé directement parce que j'ai eu quelques petits soucis personnels dont on passera très très vite les causes et les raisons. Néanmoins, ça nous fait plaisir de nous retrouver en direct. Alors, ce soir, déjà je vous rappelle le numéro du studio 01 43 71 89 40. N'oubliez pas d'aller sur le site de la radio, radio-libertaire.net, de façon à avoir l'ensemble des programmes, de l'agenda, de la souscription, car nous avons besoin de votre soutien financier pour maintenir une radio de qualité. Sur l'agenda, vous avez évidemment mon émission et les autres. Vous avez également la possibilité de réécouter le podcast 12 mois à partir de la fin de sa diffusion ou de l'enregistrer, ce que je vous conseille fortement, car cette émission sera collector dans peu de temps. Et puis, vous avez ma page Facebook Yves Jazz Libre, sur laquelle je mets l'ensemble des playlists, des pochettes d'albums sur ma page Facebook. Et il y a également, de temps en temps, ma page Instagram, sur laquelle je remets un certain nombre de petites informations. C'est juste un petit rappel, de façon à ce que vous puissiez vous y retrouver. Que vous dire d'autre? Laurent à la technique ce soir, donc ça c'est on retrouve les fondamentaux. Le générique que vous avez entendu, vous ne le trouverez pas dans le commerce, c'est moi qui l'ai fait, enfin sauf si vous avez envie d'avoir le MP3, le fichier, eh bien vous serez obligé de passer par la case chèque, hein, parce que voilà, ça va être très 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 cher. Alors, ce soir, d'une émission un petit peu particulière, nous allons commencer par quelque chose de spécial. Et ensuite, en deuxième partie, nous avons comme invités Adrien Moignard et Diego Humbert pour la sortie de leur album Django Songs. Alors, Adrien Moignard à la guitare et Diego Humbert à la contrebasse, qui est un habitué maintenant des studios, nous le présenterons, on le présente même plus, hein, voilà. Donc ils viendront nous parler de leur dernier opus, sur lequel j'ai bien accroché, et je mettrai un certain nombre de préalables de façon à vous expliquer un petit peu tout ça. Mais n'allons pas trop vite.